France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Otto Preminger et Pépé l'Hippopotame pour ce premier plan large de 2025 avec Nicolas Saada et Nelson Carlo de los Santos Arias et aussi Entebbe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plan Large et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Quoi de neuf en ce début 2025? Eh bien, Otto Preminger. Il n'était pas un auteur, écrivait le critique et cinéaste Jean-Claude Biette en 1986. Il était le malin plaisir d'une époque qui croyait aux vertus éclairantes et démocratiques du cinéma. Lorsque la croyance se perdit, ce plaisir disparut et l'on n'entendit plus parler d'Otto Preminger. Presque 40 ans plus tard, une nouvelle rétrospective à la Cinémathèque française, après celle qui a eu lieu quand elle était encore Palais de Chaillot en 1993 et après la rétrospective du Festival de Locarno en 2012. Nouvelle rétrospective donc qui donne l'occasion d'en reparler de Preminger et d'interroger la pérennité de celui qui fut longtemps considéré comme le cinéaste classique par excellence, mais aussi comme un cinéaste et pour cinéphile. Il faut dire qu'il fut la pierre de touche de l'âge d'or de cette cinéphilie. Lui qui le vit adulé par les MacMahoniens qui, avec Lang, Walsh et Lozé, en avaient fait un membre incontournable de leur carré d'as et l'incarnation même de l'essence et de la pureté du cinéma. Lui qui le vit aussi cristalliser une de ces mythiques querelles entre les cahiers du cinéma qui le portèrent au nu pour le rejeter ensuite et Positif qui le trouvait très surévalué avant de réviser son jugement. Ça tombe bien, nous avons dans ce studio en ce début d'année un ancien critique des cahiers devenu cinéaste et resté indéfectiblement prémingérien. J'ai nommé Nicolas Saada et l'actuel co-directeur de publication de Positif, j'ai nommé Entebbe. On verra si la querelle continue. Nous entendrons ensuite l'auteur du film le plus improbable, le plus fou et le plus réjouissant de ce début d'année. Il s'appelle Nelson Carlo de los Santos Arias. Son film Pépé était reparti l'an dernier de la Berlinale avec un ours d'argent du meilleur réalisateur. Nous l'avions rencontré brièvement à Berlin. Nous vous proposerons tout à l'heure la version longue de cet enregistrement. En fin d'émission, Entebbe reviendra caresser la main, The Hand, de Wong Kar-wai, une version longue, là encore, et inédite de la participation du cinéaste hongkongais au cosmopolite film à sketch Eros de 2003. Mais pour l'heure, tout commence par un air connu et un plan inoubliable.
Never forget the weekend Laura died. A silver sun burned through the sky like a huge magnifying glass. It was the hottest Sunday in my recollection. I felt as if I were the only human being left in New York. For with Laura's horrible death, I was alone. I, Waldo Leidecker, was the only one who really knew her. And I had just begun to write Laura's story when another of those detectives came to see me. I had him wait. I could watch him through the half-open door.
Hello?
Je n'oublierai jamais le week-end où Laura est morte. C'est le tout début d'un des films fondateurs du genre noir à Hollywood. Il s'appelle Laura. Sa musique deviendra un standard du jazz. Le film est signé Otto Preminger. C'est son 6e film, mais c'est très certainement avec celui-là que Preminger devient Preminger. Qu'est-ce qui se joue dès ce premier plan? Ce travelling latéral, aller-retour sur un appartement apparemment vide, celui d'une morte, avant que n'apparaisse un détective comme s'il était convoqué par la voix off qu'on a entendu, et puis on voit le locuteur de cette voix off installé dans une baignoire. Qu'est-ce que ça dit du style d'Otto Preminger, Nicolas Saada, lui qui affectait volontiers d'en avoir aucun?
Écoutez, c'est intéressant ce que j'ai dit en préambule, à savoir que c'était le cinéaste pour cinéaste. C'est moi, je me considère pas vraiment comme MacMahonien. J'ai vraiment pas du tout d'attache comme ça avec cette mythologie de la cinéphilie qui m'a échappé quand j'écrivais même sur le cinéma, qui m'échappe aujourd'hui encore plus maintenant que j'écris.
Vous étiez d'une génération successive, voilà. De toute façon.
Mais c'est vrai que moi, c'est mon activité de cinéaste qui m'a fait vraiment redécouvrir Preminger. Je dirais Preminger, vous m'en voudrez pas, parce que c'est un cinéaste que je connaissais, dont je connaissais les films, dont j'admirais le panache et la réputation, mais j'avais pas vraiment bien regardé les films. Et en revoyant ces films, en les respirant, j'ai réalisé à quel point c'est quelqu'un qui, je dirais, marie le meilleur des deux mondes. Je veux dire par là que c'est à la fois un classique et c'est à la fois un moderne. C'est-à-dire que il y a le classicisme dans l'aura du grand cinéma américain avec ses stars, avec cette esthétique de studio, et il y a déjà la modernité qui va exploser après-guerre avec le method acting, une autre façon de tourner les plans, et surtout sa manière à lui de laisser les acteurs vivre la continuité des scènes en faisant des plans séquences. Mais chez lui, le plan séquence, c'est quelque chose qui est très invisible, et il m'a fallu parfois 4 à 5 visionnages d'un film de Preminger pour réaliser qu'une scène entière est en plan séquence, par exemple.
On ne sait pas toujours, d'ailleurs, et c'est vrai que c'est le grand cinéaste du montage qui ne se voit pas, enfin, de la couture invisible, du montage interdit, hein, pour reprendre des concepts de Bazin. C'est quelqu'un qui vient du théâtre, Entebbin, et c'est peut-être là qu'il y a ce secret, de cette façon de laisser les acteurs se mouvoir et de les regarder comme si on était en coulisses, peut-être plus encore que dans la salle.
Pas tellement en coulisses, moi je dirais, comme si on était le spectateur idéal qui se fait son découpage en regardant l'ensemble de la scène. C'est-à-dire qu'il va focaliser son attention sur tel détail parce que la mise en scène le dirige, en fait. C'est de la direction du spectateur. Et ça, c'est vrai que l'école, je dirais, germanique au sens large, Max Reinhardt...
dont il était l'élève.
Et qui a donné aussi Lubitsch. C'est cette théâtralité, mais adaptée aux possibilités infinies du cinéma. Et je pense que c'est, en plus, c'est un cinéaste qui, moi, quand j'étais jeune cinéphile, me glaçait un peu. Je trouvais ça toujours très distant. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est vraiment en appréciant à déchiffrer le langage de la mise en scène que je me suis mis à apprécier de mieux en mieux Preminger.
Mais c'est aussi le cinéaste démiurge par excellence. Enfin, dans l'imaginaire qu'on s'en fait, en tout cas, autant on a l'impression avec ses plans séquences qu'il filme quelque chose qui est déjà là. Évidemment, il a tout construit. Et des démiurges, il y en a plein, ces films. Là, on vient d'entendre le Waldo Leidecker qui est persuadé qu'il contrôle tout de la vie de Laura. Il y aura le mystérieux docteur Corvo qui fera subir la même chose à la même actrice, Jean Tierney. Il y aura le cardinal. Enfin, il y a beaucoup de figures comme ça dans ces films, Nicolas Saada, de démiurges.
Alors maintenant que vous m'en parlez, j'y pense à peine. Mais maintenant que vous m'en parlez, oui, c'est assez juste, votre analyse. Personnage démiurge, mais surtout, moi, ce que je retiens de lui et de son cinéma, c'est les personnages de femmes. Ouais. C'est quand même un metteur en scène qui a accordé une place à ses héroïnes qui est assez peu équivalente dans le cinéma américain de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, à part peut-être Cukor ou de temps en temps Mankiewicz, très peu de cinéastes de cette période qui accordent un rôle, je dirais, central aux personnages féminins. Et c'est des personnages féminins qui sont un peu tout le temps en action, en mobilité, avec des hommes qui sont parfois ambigus, qui sont brutaux, qui sont violents, et qui sont pas toujours montrés sous leurs meilleurs jours.
Elles sont des femmes qui sont clivées aussi, souvent. Enfin, Laura, par excellence, c'est la femme qui est à la fois une femme et une image, une femme et un fantasme. Et on aura beaucoup, comme ça, des personnages de femmes doubles, interprétées par des actrices qui reviennent de film en film, sont souvent les mêmes. Jean Tierney, évidemment, Linda Darnell, plus tard Jean Seberg, qu'il a découverte. Et souvent, elles se ressemblent un peu, non, Anne Tebbin?
Il y a ce syndrome dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le syndrome de Pygmalion. Et je pense que Preminger, il avait, dans ce côté démiurge, il y avait aussi le fait d'avoir ces créatures. C'était un producteur-réalisateur. Donc, il prenait sous contrat les talents qu'il découvrait. Ou parfois, il prenait des personnes qui étaient déjà sous contrat au studio. Et je pense que Laura, c'est un film de Preminger et un film de Zanuck. Enfin, c'est un film qui, comme disait Nicolas, c'est à la fois le système des studios et déjà le grand cinéma d'auteur indépendant. C'est comment ménager les deux. Et Preminger, il ne faut pas oublier que c'était aussi un grand iconoclaste qui a contribué à faire s'effondrer le code de production hollywoodien en sortant des films qui n'avaient pas le visa du code Hays.
Oui, il poussait très loin ce qu'on pouvait dire. Hein. Je crois que ça doit être la première fois qu'on entend le mot vierge et qu'on voit une petite culotte à l'écran dans le cinéma classique hollywoodien, c'est chez Preminger, Nicolas Saad.
Mais ce dont on parle, cette espèce de conflit entre le classique et le moderne, je ne sais pas si je pense que pour certains auditeurs, le cinéma de Preminger et ce cinéma américain-là, il peut paraître très loin, parce que plus le temps avance, plus ce cinéma s'éloigne de nous. Et plus il apparaît maintenant comme un cinéma de derrière, d'avant, de très loin derrière nous. Et donc, la question du classique et du moderne, moi, je la trouve un peu surannée parce qu'elle pose pas les choses dans le bon ordre. Je dirais que la question du classique et du moderne, c'est la question du style. Et le style, il est pas classique chez Preminger du tout. Mais on confond classique et conventionnel. Donc, souvent, quand on pense conventionnel, on dit classique.
Et vous étiez venu, Nicolas Saad, il y a quelques mois, nous parler de Frederick Wiseman. Otto Preminger, c'est aussi un grand cinéaste des institutions américaines. Il a filmé le Sénat, Tempête à Washington, il a filmé l'armée, et puis surtout la justice. Enfin, c'est le grand cinéaste, avec Autopsie d'un meurtre et autres, à analyser le système des institutions américaines.
Mais plus que d'analyser, j'ai l'impression qu'il montre toujours comment quelqu'un réagit dans un système. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes et il y a des individus. Et ils montrent toujours comment un individu, finalement, s'accommode ou pas du système. Ou en tout cas, le questionne avant peut-être de s'y accommoder. C'est le trajet du personnage principal d'un film que je vous recommande d'aller voir qui s'appelle Le Cardinal, qui fait partie de cette rétrospective. C'est le trajet aussi personnel du personnage James Stewart dans Autopsie d'un meurtre. Et ça, c'est un thème qui... Moi, j'aime pas tellement parler de thématique, mais en tout cas, c'est un sujet qui travaille beaucoup, Preminger.
Alors, classicisme ou modernité, ce n'est plus la question, mais en tout cas, malgré l'apparente transparence de la mise en scène chez Preminger, il faut jamais vraiment croire ce qu'on voit, et a fortiori, ce qu'on ne voit pas.
She certainly couldn't have walked out that way.
She couldn't have walked out at all.
What do you mean by that? If she couldn't have walked out by herself, then someone took her. Is that what you're trying to say?
Of course not.
I assume you regulate who comes into this school and who doesn't. People don't just wander in off the street, do they?
Certainly not. We keep a...
Then listen to me for a minute. Shortly before 10, Bunny was brought into this room. A little boy about 18 months old was playing here.
Yes, and I saw the boy later in the hall with his mother.
The cook promised to keep an eye on her until the 10 o'clock recess.
Yes, but the cook...
Can you listen to me for a minute? We all agree she couldn't have got out of this room by herself.
Barring witchcraft, that can only mean someone took her out. Correct?
I don't know, I mean...
Well, I do. You'd stop defending yourself for a minute, Miss...
Smollett, and I'm not defending myself.
If you would worry less about yourself, Miss Smollett, and more about this child you seem to have misplaced, we might begin to get somewhere. Since she couldn't have gotten out of here by herself, it means someone took her out. The question is, who? Who took the child out of here? Think about it, Miss Smollett. Calm down and begin to think.
Can I when you scream at me?
Forgive me. Perhaps we're all a little overexcited.
Now, what I was going to say is that even though someone did take her out of this room, well, it doesn't necessarily mean they took her out of the school, too.
In which event, she'd still be here. The question is, where? Have you searched the place?
Of course we have.
Maybe we'll have better luck. Your track record, just for today, hasn't been too dazzling. So you don't mind if we look for ourselves, do you?
Not at all. I'll be in the office if you should need me.
Don't worry, Annie. We'll find her.
Y a-t-il pire angoisse pour une mère d'aller chercher sa fille à l'école et de ne pas la trouver, d'autant plus quand personne ne l'a vue et que certains, à commencer par la police, commencent à douter de son existence même? C'est ce qui arrive à cette jeune américaine fraîchement débarquée en Angleterre, accompagnée d'un homme qu'on croit être son mari, qui est en fait son frère, et peut-être plus encore, c'est Bunny Lake a disparu, peut-être le dernier grand film d'Otto Preminger en 1965. Et c'est un de vos films de chevet, je crois, Nicolas Saada. Oui, vous le présenterez à la Cinémathèque française dans le cadre de la rétrospective consacrée au cinéaste. Qu'est-ce qui vous attache particulièrement à ce film-là?
Écoutez, moi je dis des fois que le monde se divise en deux. Ceux qui ont vu Bunny Lake a disparu, ceux qui ne l'ont pas vu. Non, c'est un film inouï que je vois une fois par an, que j'étudie. C'est un film que j'ai redécouvert quand je préparais Espion, parce que comme j'allais tourner à Londres, je me suis dit, voyons un maximum de films tournés à Londres. Et en le revoyant, j'ai été absolument soufflé et par la mise en scène et par le sujet et par ce film qui parvient à la fois à être extrêmement tendu et totalement bouleversant. Il y a un des plus beaux derniers plans de toute l'histoire du cinéma. Moi, je le comparais entre Le ciel et l'enfer de Kurosawa. C'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment un pur film de suspense, un pur film de tension, et en même temps le portrait d'un personnage qui est au bord de l'effondrement, que personne ne croit, qui est cette jeune femme seule à Londres, assiégée par des gens qui ne veulent pas la croire. On a beaucoup parlé récemment de ce thème du gaslighting dans certains films américains classiques. Là, c'est vraiment un film sur ça, mais qui est traité avec une modernité, une intelligence. Et se dire que, là on a écouté un extrait de Laura, là cet extrait de Bunny Lake, 20 ans séparent ces deux films. Le Preminger de Laura et le Preminger de Bunny Lake ne sont pas les mêmes, et pourtant ce sont les mêmes. Et quand on voit par exemple le Hitchcock de Notorious en 46 et qu'on voit celui par exemple de Leto ou du Rideau déchiré, c'est le même Hitchcock, mais il est complètement dépassé par ce qui se passe autour de lui dans le cinéma. Au contraire, Preminger, il est tellement à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui, tellement à l'écoute de cette modernité du cinéma, qu'il a vu arriver avec Gene Siberg, quand on lui dit garde les cheveux coupés pour mon adaptation de Bonjour Tristesse, et finalement c'est la partie 1 de À bout de souffle, ce film. Donc il anticipe toujours les choses, il sait que les choses ont changé, c'est ce que vous disiez sur sa manière de jouer contre la censure, d'aborder des thèmes qui sont interdits par le cinéma américain. Même chose là, il anticipe la modernité et il convoque aussi bien Antonioni que Godard, tout en restant aussi fidèle à une tradition qui est celle d'Hitchcock. Moi je suis sidéré par ce film. Ce film, c'est... Il y a des films qui... Quand on est cinéaste, c'est qu'il y a des jours où on est découragé, on a besoin de voir des films qui redonnent courage. Moi j'en ai quelques-uns, et Bunny Lake en fait vraiment partie, et c'est une raison pour laquelle j'ai insisté pour pouvoir venir le présenter, c'était juste pour voir qui serait dans la salle et qui allait le découvrir, parce que c'est un film, pour faire un néologisme, importantissime.
c'est intéressant que vous ayez déjà convoqué le nom d'Hitchcock, parce que le film à l'époque a été vu comme une réponse aux psychoses de Hitchcock, à cause du twist psychanalytique final, on n'en dira pas plus.
Surtout pas plus.
Il peut faire penser aussi à Une femme disparaît de Hitchcock, puisque là aussi une femme disparaissait, mais personne ne l'avait jamais vu. C'est fructueux de comparer le cinéma de l'un et de l'autre. Entebbe, sans doute par exemple qu'il n'y aurait pas de Vertigo sans Laura.
Oui, mais c'est tellement différent. C'est tellement différent. Hitchcock, chacun de ses films est un tableau. Et Preminger, chacun de ses films est un ballet, en fait. Et ils ont parfois des thématiques communes, mais qui ressortissent aussi des genres qu'ils empruntent, ou des codes ou des conventions. Mais leurs approches des personnages n'ont rien à voir non plus. Je pense pas du tout qu'ils ont la même vision du monde. Leur style parfois se ressemble un petit peu dans leur formalisme, mais Hitchcock est tout sauf un metteur en scène de la mise en scène invisible. Alors que Preminger, c'est virtuose, mais c'est pas ça le principal.
Ils ont quelqu'un en commun, en tout cas, c'est Saul Bass.
Saul Bass
qui a fait le générique de beaucoup de ses films, de L'homme au bras d'or, d'Autopsie d'un meurtre, les affiches que contrôlait aussi de très près Preminger, et le générique de ce Bunny Lake
a disparu, où on voit un écran noir et on voit une main qui soulève des petits bouts ici et là, laissant apparaître les noms des collaborateurs du film. Je vous livre l'exégèse d'un de ces grands exégètes, Chris Fujiwara, grand spécialiste de Preminger, qui dit « L'activité du cinéaste consiste à soulever un morceau d'obscurité pendant un temps donné afin de révéler certaines images. » Et c'est vrai qu'on a sentiment chez Preminger, dès Laura, et c'est le cas encore dans Bonnie Lake qui a disparu, c'est « Il y a ce qu'on voit ». Et puis, il y a un autre récit qui court sous le film et parfois, il faut soulever un bout de l'écran pour le voir.
Sans doute, oui, qu'il y a quelque chose de sourd dans son cinéma. Mais on parlait d'analogie, d'équivalence, de comparaison. Moi, il y a un cinéaste qui me fait... Enfin, je pense qu'on peut rapprocher Preminger d'un autre cinéaste, c'est Ophuls. Il y a quelque chose, je trouve, sur la façon, justement... Alors, ils sont tous les deux viennois, c'est peut-être pas un hasard. Mais il y a ce côté ballet dont parlait Bean. Et surtout, c'est un cinéaste qui, effectivement, ne veut pas montrer ce qu'il montre et surtout fait tout pour qu'on ne fasse pas attention à ce qu'on voit. Et c'est pas simplement l'histoire, hein, c'est même le style. C'est-à-dire qu'il est très modeste alors qu'il est... C'est un maître alors qu'il est modeste. C'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire beaucoup de cinéastes aiment montrer ce qu'ils font avec parfois un peu d'autorité. Donc on doit être admiratif, on doit applaudir parce que la caméra va de là à là. Alors le cinéma n'est plus du cinéma, ça devient un sport. Moi, j'aime pas trop ça. En revanche, moi, il m'a fallu parfois 10 à 15 visionnages avant de remarquer des plans séquences dans un film de Preminger. Dans Autopsie d'un meurtre, il y a une scène où James Firth retourne sur les lieux du meurtre, enfin de l'enquête qui démarre. Donc c'est un bar qui est complètement abandonné. Donc il rentre dans le bar, il fait le tour du bar et c'est un plan séquence qui fait 360 degrés. Et chaque fois que je regarde, je me dis comment il a fait ça? Parce que quand on le voit, on ne voit que le morcelage de ce que regarde Stewart. On se dit oui, il regarde le mur, il regarde le fond du bar, il s'approche, il s'éloigne. Puis au bout d'un moment, on se dit mais attends, en fait c'est un plan séquence depuis au moins 30, 40, 50 secondes. Et voilà, c'est ça l'art de Preminger, effectivement, c'est ce côté invisible qu'il faut aller chercher. Et donc c'est un cinéaste dont on aime revoir les films. Alors au flux, c'est vrai que le mouvement se voit plus, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose entre les deux jeux. Je suis pas capable de dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des équivalences.
Damien,
au flux, c'est beaucoup plus ostentatoire, en fait. Ça fait d'ailleurs partie des plaisirs du cinéma d'Ophuls. On est ébloui dès la première vision et ensuite on va approfondir. Preminger, c'est l'inverse. À la première vision, on peut être pris par le récit, par exemple, ou par les personnages. Et puis, c'est petit à petit qu'on s'aperçoit que c'est la mise en scène qui a dicté notre regard et qui nous a permis d'aller derrière les choses, derrière les êtres. Voilà, ça c'est quelque chose de très fort et de pas facile à percevoir et à discerner quand on voit ces films pour la première fois.
C'est très musical en fait, c'est très mélodique.
C'est évidemment Duke Ellington, le magnifique, qui en 1959 signait l'impeccable musique originale d'Autopsie d'un meurtre. Merci Nicolas Saada, merci aussi Ntebin. On vous retrouve en fin d'émission pour entendre Nicolas Saada prolonger ce qu'il vient nous dire sur Bonnie Lake a disparu. Il présentera donc le film à la Cinémathèque française vendredi prochain, 10 janvier, à 15h30. Quant à la rétrospective incomplète, on n'y verra toujours pas son Porgy and Bess, mais on y verra bien son Carmen Jones, longtemps interdit en France par les héritiers de Bizet, c'est jusqu'au 2 février.
Dans des librettistes.
Oui,
pas de Bizet.
Ah oui, c'était les librettistes, pardon. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large après Preminger, place à Pépé Pépé, c'est un hippopotame, mais pas n'importe lequel. C'est le seul de son espèce à avoir été tué sur le continent américain. Qui faisait-il sur le continent américain? Eh bien, il s'était enfui du zoo privé, et totalement illégal évidemment, que s'était constitué dans son ranch colombien le narcotrafiquant célèbre Pablo Escobar, terrorisant les pêcheurs de la rivière voisine où il s'était installé. Il a fini par subir le même sort funeste que son défunt maître, sous les balles de la même armée. Le cinéaste venu de l'île de la Dominique, Nelson Carlo de Los Santos Arias, non seulement raconte cette histoire du point de vue de l'hippopotame mort, mais il le fait avec une invention formelle permanente et sidérante, mélangeant fiction et documentaire et images de tout format et tout support, comme il l'avait expérimenté dans son précédent long métrage Cocoté, inédit en France, une forme que le cinéaste revendique comme l'expression même d'un métissage caribéen et post-colonial. Nelson Carlo de Los Santos Arias, mais d'abord on écoute Pépé.
Maar ik kan niet ontdoen dat ik een klank gehoord heb, wat goed verdedigd ik het zoals. Ah, hier. Daar is ik. Maar waar is mijn lichaam?
Nelson Carlo de Los Santos Arias, comment est-ce que vous avez appris l'histoire de Pépé et quand est-ce que vous vous êtes dit voilà de quoi faire un film? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a ému dans cette histoire?
La première fois que j'ai écouté cette histoire, le problème, c'est qu'il y avait une erreur. J'avais fait un film auparavant, Cocoté. Après ce film, c'était une période très traumatique pour moi. J'en suis sorti déprimé. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris un sac à dos et je suis parti voyager en Colombie. J'avais toujours eu envie de voyager en Colombie. J'y avais pas mal d'amis. Et l'un d'eux, c'était Camilo Restrepo, qui est l'homonyme du cinéaste qui vit à Paris, mais c'est pas le même. Il est peintre, Camilo Restrepo. Et là, il avait une sculpture intéressante, un tout petit hippopotame, à côté des petits soldats avec lesquels je jouais avec lui quand j'étais enfant. Adulte, j'ai compris que c'était des soldats américains, horribles. Et ces soldats pointaient tous leurs armes vers l'hippopotame. J'ai dit « Waouh !» C'était vraiment intéressant. J'ai dit « Camilo, c'est quoi ?» Et il m'a raconté l'histoire, mais il s'est trompé. Il y a des hippopotames ici. Mais qui les a amenés? Pablo Escobar, le roi de la cocaïne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pépé était donc un hippopotame. Et quand un troupeau devient trop gros, le comportement habituel de l'hippopotame, c'est de se battre avec le mâle alpha, et là, il perd. En tout cas, selon Camilo. Et quand il perd ce combat, l'hippopotame s'exile, loin du troupeau, et il essaie de trouver un nouveau troupeau. Mais il ne savait pas qu'il n'était pas en Afrique, et qu'il n'y aurait pas d'autres hippopotames. C'est triste, mais ce n'est pas la vraie histoire. Les hippopotames étendent leur territoire et quand ils perdent, ils partent, mais ils partent avec une femelle. Et c'est comme ça qu'ils étendent leur territoire. C'est très différent. Alors après, mon travail est complètement sur la décolonisation. Et pas seulement en termes de politique, mais aussi la problématique de l'esthétique. Et pour moi, cette histoire était parfaite pour aborder la migration, mais pas seulement, disons pour attaquer la problématique, surtout en Amérique, moi qui viens des Caraïbes. Les déplacés, les exilés. On a toute une histoire, nous, en Colombie, là-dessus. Des gens qui s'installent quelque part, ils travaillent, ils doivent partir parce qu'ils trouvent la violence. Tout ça, c'est l'histoire des Amériques. Des gens qui s'installent quelque part et qui sont virés par la violence. Quelque part, cette fable, j'y ai trouvé beaucoup de connexions avec le cœur de notre histoire. À la fin, bien sûr, c'est un animal. avec une personnification de l'animal. Et j'utilise la fable et le fantastique. L'imagination, c'est une production de l'imagination. Mais cette imagination, quand on travaille au cinéma, parce qu'on sait ce que c'est que le grand cinéma, c'est le rêve, Disney, Hollywood. Et pour moi, l'imagination, c'est quelque chose de plutôt politique. C'est comme ça que nous atteignons l'homogénéisation et qu'on conquiert la singularisation de la production d'images. Mickey Mouse, ça n'est pas que Mickey Mouse. Cartoon Network, ce n'est pas que Cartoon Network. À partir de là, j'ai commencé mon voyage.
Un des enjeux du film, c'est aussi de montrer un point de vue qui ne soit pas anthropocentré sur le monde. Est-ce que c'était justement une des raisons pour lesquelles vous vouliez faire ce film ?
Je n'étais pas seulement enthousiaste. Nous vivons tous avec les animaux, surtout dans ma famille, dont une partie habite à la campagne. Moi, je suis citadin. Mais ce sont les Caraïbes. Même les villes dans les Caraïbes, on est toujours dans la nature. Mais ce film a beaucoup changé de choses pour moi, la façon dont je me vois moi-même. L'anthropocentrisme, c'est quelque chose de très intolérant dans ce qu'il a produit dans ce monde. Me retrouver seul avec cet animal, parce que ce film a été tourné en 5 périodes, avec chacune une logistique différente. La plupart du temps, j'étais seul avec lui. Et d'être là, en face de cet animal, qu'est-ce qu'on fait quand on filme un animal ? On reste là, des heures, à l'observer, à étudier son comportement. Ah oui, là, il sort, il va par là-bas, et vous connaissez ses habitudes. Vous pensez à vos propres habitudes. Plus que de l'anthropocentrisme, parce qu'on sait tout ça bien depuis l'école, on est tous des animaux. Mais c'est différent d'avoir une véritable découverte, une révélation, comprendre que nous sommes des animaux. On pourrait penser qu'on le sait tous. C'est pas très intelligent à dire. Bon, voilà, on le sait, on est tous animaux. Mais quand vous êtes avec des animaux, vous le comprenez d'une façon qui n'est pas comme celle que l'on vous a apprise à l'école. Avec d'autres humains, vous le comprenez sur le terrain. Et c'est complètement différent de vous voir vous-même comme un animal qui appartient au royaume des animaux.
Je ne sais pas si vous êtes lecteur d'André Bazin, mais on a le sentiment que vous vous posez la même question, qui est comment, dans un film qui raconte des hommes et des animaux, faire rentrer l'homme et l'animal dans le même plan, dans le même cadre.
Je n'ai pas lu ce texte. Bien sûr, qu'est-ce que le cinéma était un texte qu'on était obligé de lire à l'école de cinéma. Je me suis échappé de Bazin. Ça ne m'intéresse pas trop, André Bazin, pour dire la vérité. Mais au-delà de Bazin, la France a bien sûr beaucoup de grands critiques qui ont questionné la façon de filmer un animal et un humain dans le même plan. J'ai commencé à le comprendre, là, d'abord d'un point de vue décolonialiste. On pense alors à la question de l'universalisme, et on comprend que l'universalisme, ça n'existe pas. Mais cette fois, sur le terrain, avec cet animal, on comprend que biologiquement, il y a des besoins qui appartiennent à tout être vivant. Et ils sont deux, ces besoins. Le premier, tout ce qui est vivant se bat pour vivre. C'est la volonté de vivre. Et la deuxième, et c'est très beau chez les animaux, parce qu'ils interagissent. Même quand l'un est le prédateur de l'autre, parfois, pour boire à la source, ils coexistent à un moment. Et ce sont des moments où ils ne s'entre-dévoreront pas. Pour arriver à vivre, ils doivent trouver un environnement vivable. Les peuples indigènes disent ça depuis très très longtemps. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'une pieuvre peut voyager depuis le large du Chili vers l'Alaska, en Amérique du Nord, des milliers de pieuvres voyagent pour une vie meilleure, mais seront en même temps la nourriture des baleines pour leur permettre de se reproduire. Et alors là, il n'y a plus de hiérarchie. Tout est en lien, en relation. C'est mieux que Bazin. C'est du Édouard Glissant et sa poétique de la relation. Vous voyez ? Un animal et un humain dans le même plan ? Eh bien, c'est simple. Ce sont deux animaux en relation. Et de cette relation, nous pouvons faire de la poésie.
Cette poétique de la cohabitation, c'est celle aussi des images. Il y a des images de tout format, de tout support. C'est ce qu'on avait déjà vu dans Cocotte. Pourquoi est-ce que vous pratiquez comme ça le cinéma ?
Parce que ça part d'une position politique. Je vais raconter une anecdote. J'ai obtenu une bourse pour étudier au California Institute of the Arts. La première année, j'ai obtenu de l'argent de Kodak et je suis parti à New York. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de Dominicains à New York. Chaque fois que les USA occupent un pays, ils permettent aux gens ensuite de venir. Après 65, beaucoup de Dominicains sont venus à Manhattan, à Washington Heights, dans le Bronx, etc. J'ai fait ce film, j'avais 26 ans, plutôt dans un esprit documentaire, parce que je tournais sans aucune préparation. Je tournais et je donnais une forme au film au montage. Mais je suis aux États-Unis. Et bien sûr, mes professeurs ne parlent pas l'espagnol. Et donc, je dois traduire. Et c'est la première fois que je vois l'oralité de la République dominicaine. Et ça m'en a bouché un coin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces syntagmes, ces prédicats, ces sujets? Oh là là, ils vont commencer à parler d'un sujet et puis ils ne vont pas finir la conversation va bifurquer. Et pour moi, ça a été une inspiration incroyable de construire une stratégie de montage qui soit une conversation. Et dans une perspective politique, parce que je viens d'un pays où, bien sûr, on parle l'espagnol, c'est la langue coloniale, c'est la langue européenne, et pourtant, au contraire de l'Argentine, du Mexique, de la Colombie, on n'a pas une grosse production écrite, sociologique, anthropologique. Tout reste dans l'oralité. Les Caraïbes ont une incroyable tradition orale. Et dans ce monde d'oralité, l'écrit est essentiel pour définir ce qui est civilisé de ce qui ne l'est pas. C'est très important quand on veut comprendre le colonialisme. La production des images, comment on fait ? Et la connaissance, parce que les images, c'est de la connaissance. On peut citer Deleuze et Guattari. La subjectivité est déjà un processus hétérogène. Et l'identité, ça n'existe pas. Les États-Unis basent tout sur des politiques identitaires. On voit qu'aux USA, tout le monde se revendique selon sa communauté. Ah, je suis ici parce que je suis latino, je porte les chaussures de ma grand-mère, que je fais venir d'Amérique latine. Tout ça, cette idée de l'identité, enracinée dans un pays, un territoire, est une invention de l'homogénéisation que les pays européens avaient déjà affrontée. Pour citer Annibal Quirarno et sa magnifique philosophie, il disait « L'Amérique, l'Europe, les races, le capitalisme et la modernité sont tous nés à la même époque ». Celle de la colonisation. Mais d'abord, bien sûr, les Occidentaux se sont définis d'après les Grecs, qui ont commencé la civilisation occidentale. Mais il fallait d'abord construire l'Amérique. La première identité géopolitique, c'est l'Amérique. Ensuite, il y a eu l'Europe, quelque part. La modernité, dans un sens, n'a pas été apportée par les Européens, elle a été conçue en Amérique, avec cette relation entre l'oppressé et l'oppresseur, le colonisé et le colonisateur. C'est déjà de l'hétérogénéité. Le monde n'est pas en cinémascope. Et puis je vais vous dire, quand on va à l'école de cinéma, il faut obéir à la règle des 10 premières minutes pour présenter les personnages, et le thème, et l'intrigue, toutes ces bêtises. C'est une réduction de Shakespeare. Comment se fait-il que le cinéma, qui est toujours du présent, même quand il traite du passé, de l'avenir, et c'est pour ça que pour Deleuze et Guattari, le cinéma c'est incroyable parce que c'est toujours du présent. Le mouvement est du présent. Dans ce sens, le cinéma tel qu'on connaît, ça n'existe pas. C'est peut-être du cinéma, mais moi, ça ne m'intéresse pas, le cinéma. Ce qui m'intéresse, oui, les contes, les conteurs. Tout le monde sur cette planète sait raconter des histoires. Ma grand-mère, la première. Ce qui m'intéresse, c'est dans la production des images et des sons qui construisent une histoire, un récit. Ça m'est égal, le cinéma. Le cinéma, ça peut être tellement froid. Est-ce qu'il faut vraiment que je passe par ça? Non, je ne suis pas anglais, anglo-saxon. Moi, je m'en fous de présenter les personnages en 10 minutes. Vous savez, moi je viens de République Dominicaine, tout le monde parle tout le temps. C'est là que j'ai commencé à penser le monde. Et tous les visages sont hétérogènes. Ils ne sont pas noirs et blancs, non, ils ont de multiples couleurs. De multiples couleurs. Et bien sûr, il y a le jazz. Moi, je prépare les choses avant le tournage et parfois non. Ça vient de l'impro, comme du jazz. Moi, je suis un jazzman.
Sírvame un aguardientoski con limón soski cantineroski. Y tranquilos hermanoski que yo tengo ski con que pagoski. Es que estoy muy contentoski porque yo andoski con mi amorcitoski. Y quiero que esta noche oski darle un besoski en la boquitoski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski. Y sírvale a mi amor soski un ron dobloski con coca-coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski. Y sírvale a mi amor soski un ron dobloski con coca-coloski. ¡Oh!
Pépé, sorti en salle ce mercredi. Bravo à son courageux distributeur Shellac et merci à Harold Manning d'avoir traduit les propos de Nelson Carlo de los Santos Arias, ours d'argent du meilleur réalisateur à la dernière Berlinale. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est l'heure d'ouvrir le journal du cinéma avec quelques autres films sur vos écrans cette semaine.
You know the movie's out?
Hot, fresh pizza! Sausage!
Portobello mushrooms! Pulled pork!
Parmesan cheese!
Angie.
Do you see that?
Bosha, go to sit.
Look at me.
Look at me!
Matt.
Mama.
Can you go to Nutrul Neskul Habs?
You barely have made your own.
Nutrul Habs.
I'm burned. Who are you?
It's none of your business.
Who you love? I knew there was a reason we met. Who you love?
Kimi wa hontō wa ii kō nan da yo.
Kimi no moru tte kōyū no ka.
Dans vos salles cette semaine, une dernière partie de baseball jusqu'au bout de la nuit sur un terrain promis à la démolition. C'est Ifus, le dernier tour de piste de Carson Lund, une belle et modeste élégie d'une certaine idée du vivre ensemble à l'américaine, à voir, même si, comme la plupart des spectateurs français, on ne comprend rien aux règles du sport national des États-Unis, tant ce n'est pas ici ce qui compte, mais bien ce qu'il nous reste de vie en commun, là-bas comme ici. Élégie encore celle d'un couple de femmes âgées dans un Hong Kong surpeuplé où la disparition de l'une est excite dans sa famille la convoitise de l'appartement qu'elle possédait, quitte à enchasser sa compagne en deuil. C'est le pudique et cruel Tout ira bien de Ray Young, pendant féminin de son Un printemps à Hong Kong d'il y a 5 ans, qui parlait déjà d'amour homosexuel entre personnes âgées. Une famille de réfugiés russes confrontée à la froideur hygiéniste de l'administration suédoise provoquant la catalepsie de leur fille. C'est le glaçant Quiet Life du grec Alexandros Avranas où brille la star russe Shulpan Khamatova, elle-même exilée en Lettonie suite à l'invasion de l'Ukraine par son pays natal. Le retour dans son village tunisien de bord de mer d'un fils de berger parti faire le djihad en Syrie, accompagné d'une mystérieuse femme dissimulée sous son niqab, et les morts mystérieuses qui s'en suivent. C'est la source, magnifique film de Myriam Djouber, pendant masculin et fantastique du documentaire Les filles d'Olpha de Kauter Benania. La question agite manifestement beaucoup la Tunisie et son cinéma. Une gamine de 12 ans, forte en gueule et en rupture avec sa famille de squatteurs dans le Kent, c'est la nouvelle héroïne d'Andrea Arnold qui tente elle aussi de mettre du fantastique au perché pour renouveler ce naturalisme coloré qui est sa marque de fabrique et qui commence un peu à tourner à l'auto-académisme. Ça s'appelle Bird et on n'est pas certain que la greffe est prise. Et puis enfin une autre gamine, tout aussi pleine d'énergie, dans le Tokyo bombardé et corseté des années 1940, c'est l'audacieux Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, l'adaptation en animé par le jeune Shinosuke Yakuwa d'un classique de la littérature jeunesse nippone, l'autobiographie de l'écrivaine Tetsuko Kuroyanagi. À vous signaler encore que la rétrospective intégrale Frédéric Wiseman, Nos Humanités, à laquelle nous avions consacré une émission en septembre dernier avec Julie Bertuccelli et Nicolas Saada, toujours là pour partager son amour des grands cinéastes américains, la rétrospective Wiseman prend désormais, suite aux travaux à venir au Centre Pompidou, ses quartiers au Forum des Images du 8 janvier avec la projection de Blind, au 19 mars avec 20 films, dont 16 en version restaurée. Parallèlement à la rétrospective Otto Preminger, la Cinémathèque française permet de découvrir toute l'œuvre du cinéaste italien longtemps méconnu Elio Petri, c'est jusqu'au 12 janvier. Quant à celle de Toulouse, elle aussi hors les murs, c'est au pâté Wilson qu'elle propose une galaxie Hitchcock jusqu'au 27 février. On pourra donc, en sautant d'une ville à l'autre, vérifier les mérites comparés d'Alfred et d'Otto. Et puis enfin, dans les films attendus de ce début d'année, il y a la première incursion états-unienne de Pedro Almodovar. Ça s'appelle La Chambre d'à côté. Ça sort mercredi prochain et ça fait la couverture, figurez-vous, avec entretien à la clé, aussi bien du nouveau positif que des cahiers du cinéma, comme quoi certaines vieilles querelles sont bel et bien enterrées. Et à présent, un peu de sensualité, toute tactile.
2003, rappelez-vous, un virus avait provoqué le confinement de Hong Kong. Et oui, déjà, c'était le SRAS, bien avant le coronavirus qui a arrêté le monde en 2020. Le tournage infini du 2046 de Wong Kar-wai est alors interrompu. Une commande d'un producteur français pour un improbable film à sketch réunissant autour de l'érotisme trois grands cinéastes mondiaux, Michelangelo Antonioni, dont ce sera d'ailleurs la dernière réalisation, Steven Soderbergh et le Hongkongais Wong Kar-wai, permettra ce dernier de s'inspirer de la situation de sa ville pour réaliser le meilleur segment de ce film collectif, donc qui s'appelait Eros, et le film de Wong Kar-wai s'appelait La Main. Revenant comme toujours inlassablement sur l'ouvrage, Wong Kar-wai en a tiré une version longue et remontée, elle s'appelle dorénavant The Hand, La Main en anglais, et après sa sortie en salle il y a un an, elle est éditée aujourd'hui en DVD et Blu-ray. Vous y trouverez des couloirs, des escaliers, des images superbes, de la musique lyrique, des vêtements fétichisés et un amour sublimé, cette fois entre un tailleur et une sorte de dame aux camélias du Hong Kong des années 60. On est bien chez le réalisateur de In the Mood for Love, qui développe dans ce film, Ntebin, un érotisme de la main qui n'aurait sans doute pas déplu à Robert Bresson.
Certes, je vois que vous pensez à cet autre grand film d'amour, qui est Pickpocket en fait. Il faut se rappeler que le titre de Hand, enfin la main, a été trouvé par Wong Kar-wai à la fin du tournage. Donc, c'est la thématique qui s'est petit à petit imposée. Antoine, Nicolas, si je vous dis zéro de conduite, une partie de campagne, une histoire immortelle, la vie des morts, quel rapport ? Eh bien, que des chefs-d'œuvre qui ne sont pas des longs-métrages, qui ne sont pas non plus des courts-métrages. Et qui ont juste la bonne durée. Alors là, c'est vrai que The Hand a été rallongé pour faire presque une heure, et c'est un film parfait. Et c'est aussi le seul vrai mélodrame de Wong Kar-wai. Alors évidemment, ça fait partie d'une trilogie qui est celle des Amours Impossibles, constituée par In the Mood for Love, donc The Hand, et 2046. Mais c'est une trilogie qui a pour centre ce vrai mélo. Vous avez parlé de la Dame aux Camélias. Alors, bien évidemment, comme toujours, Wong Kar-wai, il s'approprie des codes et puis il les réinvente, il les dénonce, il les remet en question. C'est une Dame aux Camélias un petit peu à l'inverse, socialement, puisque dans la Dame aux Camélias, c'est la demi-mondaine qui dévoie le jeune fils de bonne famille. Ici, la prostituée, alors on est un siècle plus tard, donc la prostituée est du grand monde, et c'est elle va déniaiser un prolo, on va dire un jeune homme, un jeune tailleur, grâce à sa main, puisque elle, c'est une professionnelle, et elle va exiger de sa part à lui un retour aussi professionnel, puisqu'il est tailleur, elle veut qu'il lui confectionne des robes. Et c'est le début d'un amour qui va durer toute une vie, qui commence par un acte sexuel qui prend évidemment le contre-pied de In the Mood for Love. Puisque dans In the Mood for Love, il y avait une scène qu'on voit dans les bonus d'ailleurs de l'édition vidéo, où on voit les deux personnages sur un lit où ils ont peut-être fait l'amour. Mais ça, Wong Kar-wai l'a coupé. Ça, on en revient à la première grande scène dans le flashback de The Hand, qui est une très longue scène qui aboutit à un orgasme très longuement filmé par Wong Kar-wai, mais c'est un orgasme, si j'ose dire, professionnel, puisqu'il s'agit vraiment d'un échange de bons procédés qui va masquer cet amour qui va durer sur des années et des années, avec des personnages. Il y en a un qui est en pleine ascension, l'autre qui est en déchéance. C'est vraiment l'un des tropes du grand mélodrame. En même temps, c'est aussi peut-être un film sur la création. C'est un film qui, comme tous les très grands films, peut se lire dans plein de lectures et d'analyses et d'interprétations et de grilles différentes. C'est aussi un film sur ce que c'est que la création, et que la création par rapport à la prostitution. Est-ce que quand on crée, c'est pour le public? Est-ce que c'est pour se faire plaisir à soi? Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre? Et puis, vous avez cette mise en scène absolument somptueuse qui s'attache à des fragments de corps, qui sont des fragments de sentiments, qui n'osent jamais s'avouer, avec beaucoup de hors-champ, avec des choses qui sont déduites plus qu'elles ne sont montrées. Une somptuosité absolue, évidemment, dans les lumières, les décors et les couleurs, mais aussi les sentiments, avec deux acteurs sublimes qui n'ont jamais été peut-être aussi bons, bien qu'ils se disent peu de choses, ils se touchent un peu. C'est Chang Chen et Gong Li. Alors, plus charismatique que ça comme couple, c'est impossible. Hein, on est en 2003-2004. Franchement, ce film, en plus, a sorti de quelques bonus tout à fait délectables. Il faut se précipiter dessus.
Qu'est-ce qu'on apprend dans ces bonus, d'ailleurs, sur les méthodes de travail légendaires de Wong Kar-wai ?
Ah bah déjà, alors, on voit ces deux acteurs qui n'ont pas les maquillages et les costumes de leurs personnages, et on a l'impression de personnes totalement différentes, et puis qui parlent de façon très pragmatique de Wong Kar-wai, comme quoi il sait ce qu'il veut, mais il laisse une énorme marge de liberté à ses interprètes. Et puis Gong Li dit « Ah, j'ai aussi appris quelque chose, c'est qu'on pouvait faire une journée de tournage qui dure 38 heures ».
Merci Antebin. The Hand de Wong Kar-wai est édité en DVD et Blu-ray dans le même coffret par The Jokers. Un plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson et François Saint-Jour. L'émission était préparée par Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.